c'est parti pour un autre show du retour. Bon mercredi à l'antenne de Boulevard 102.1. Je m'appelle Audrey Pinchot, accompagnée d'Antonine Iacarini, de Max Larouche jusqu'à 18h. J'espère que tout le monde va bien. Pour nous rejoindre, 88-971-1021 texto. Il y a le numéro de téléphone si vous avez envie de jaser, le 88-780-1021. On a les différentes plateformes médias sociaux, que ce soit le Instagram, le Facebook de Boulevard, la chaîne YouTube. On est sur TikTok, on est sur X, on est pas mal partout. Et vous pouvez nous écrire aussi, évidemment, via Messenger sur la page de Boulevard. Vous avez des dossiers à partager, des choses que vous voulez creuser sur la Ville de Québec, des questions. Mathias Turcotte, notre journaliste terrain, toujours disponible. Citoyen commercial, blvd.fm. C'est toujours ce genre de moment-là où je me demande, t'abordes-tu une journée de cul ou tu ne l'abordes pas?
Est-ce que tu fais semblant que tout va bien?
Est-ce que tu fais semblant que tu vas y arriver ou t'assumes en partant que ça va être tough?
Ben c'est ça. Là, Audrey, t'as la voix un peu plus rauque que d'habitude.
Oui, puis il y a une normalité à ça. On est en plein festival, les gens fument, on se couche tard. Moi, j'ai une voix qui est super sensible de base. J'ai des nodules. Si vous savez pas ce que c'est, des nodules, c'est comparable à de la corne de guitare quand tu joues, mettons, quand t'apprends à jouer, là. Fait que c'est comme des bosses, si on veut, qui se créent, qui se cristallisent sur mes cordes vocales, ce qui fait en sorte que j'ai la voix rauque que j'ai, mais elle est affectée davantage quand l'hygiène vocale n'est pas parfaite. Ça, c'est une chose. Moi, manquer de voix, à la limite, là, j'ai juste l'air d'une fumeuse le temps de 24 heures.
T'as
c'est pas
l'air
la fin d'une
du monde. Fumeuse. Ça te donne, t'as une voix qui a de la personnalité.
Définitivement. Ça, elle est reconnaissable. Mais je sais pas ce qui se passe depuis à peu près... Depuis deux jours, je fais des bonnes allergies. Là. Je sais pas si c'est la saison des allergies de quoi dehors en ce moment, là, mais congestionné, là, le nez qui coule de l'eau. Là. C'est même pas de la mort. Là. Ça coule un flot. Je sais pas combien de Kleenex j'ai passé en deux jours. Puis là, ça me tombe comme dans la gorge. Puis là, c'est le moment où tu te dis, ah, c'est-tu juste des allergies ou j'ai pogné de quoi? Là? Tu sais, c'est le fait que c'est le fun, mais c'est aussi un moment où tu t'exposes à beaucoup de gens en même temps, où tu peux pogner une cochonnerie. Ça me surprend toujours les gens qui sont malades d'habitude l'été. Tu sais, on dirait que l'été, je sais pas, c'est pas la période pour être malade l'été. Là. Fait chaud, fait beau. Puis ça, c'est pas là que ça court normalement le plus. Du moins, j'ai
c'est
personne.
C'est choquant d'être malade de l'été, mais ça arrive.
Oui, ben tu me disais que ton chum avait chopé un petit quelque chose,
ben, tu sais, moi, tu me disais depuis le début de la semaine que c'était des allergies, mais ça ressemble beaucoup à ce que mon chum a. Il n'y a pas de chopé de chien qui le rend allergique.
Oui, parce que là, il y a les allergies extérieures, mais c'est ça. Mais j'ai un chat, un chien à maison, puis je suis comme pognée dans un appartement le temps du déménagement dans ma maison en attendant avec ces deux-là, fait que l'espace est restreint. Mais non, c'est ça, c'est vraiment le genre de journée où... Tu files pollen de graminée, qu'on me dit sur le texto. Peut-être. Il y a des gens qui disent c'est sans doute le corps entre l'air clim et dehors. Moi, ça joue sur les bronches. Ça se peut aussi.
Ça se peut.
Mais tu sais, c'est le genre de journée où tu essaies vraiment d'être positif puis de bonne humeur, mais tu es tellement pogné des sinus, tu as tes yeux qui ont de la misère à ouvrir. Tu sais, t'es comme... La tête...
T'as l'air malade aujourd'hui. Je veux pas te... Mais
ça se dit ça à quelqu'un, ça?
Non.
Je pense que je l'assume.
Non, mais dans le sens, pas physiquement, là, mais juste on l'entend dans ta voix. C'est pas comme depuis le début de la semaine.
Mais tu sais, ça va bien. C'est vraiment au niveau de la respiration. Je risque de sonner essoufflé jusqu'à 18h. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Puis c'est choquant. Mais là, écoute, en même temps, je me plains le ventre plein dans mesure où la vie est belle, puis il n'y en a pas de problème. Là.
Puis hier, tu t'es reposé finalement. T'es pas allé au fait.
J'ai tellement dormi. Puis j'ai eu le FOMO hier, là, dans le sens que il était rendu 20h15, puis j'ai regardé mon chum, puis j'étais comme, hey, au pire, on se prend une couverte, puis on s'en va vraiment au fond des plaines sur le gazon, puis juste entendre le piano, tu sais, puis entendre la douceur, je vais dire, de Patrick Watson, parce que là, évidemment, pour me torturer, j'en écoutais un peu, hein, après le show hier.
Ah, ça fait pareil.
Fait que je suis pas allée, non, j'ai dormi, mon Dieu, je suis arrivée à la maison, là. Puis je pense que quand on a décidé qu'on n'y allait pas officiellement, 9 heures, pour vrai, je devais dormir. Puis je me suis réveillée un matin à 9h30, facile.
C'est sans doute donner une chance.
Ah, c'est sûr que oui, c'est sûr que oui.
Le virus, il va durer moins longtemps.
Je le souhaite définitivement. Mais au point où même ce soirée à laquelle j'ai vraiment hâte depuis le début du FEC, il y a une partie de moi qui me suis dit, hey, si le show est difficile, puis à 18h, j'ai encore la tête dans le derrière, là. Possibilité que je réfléchisse, là. Ou que je vais faire une petite sieste avant Kesha, Shaggy et The All American Rejects. C'est ce qui va faire les plaines ce soir, d'ailleurs. On va s'en rejaser. Je veux juste qu'on fasse un petit tour sur ce qui s'est passé hier. Parce que, Max, j'ai reçu un texto de ta part en soirée, puis c'était « C'est bon, mais Audrey, tu manques pas la soirée de ta vie. »
Puis en même temps, si tu lis certaines critiques dans les journaux, t'as l'air d'avoir manqué le show de l'histoire à Québec, là.
On est intense. On est quelques-uns passionnés de musique qui avons le meilleur show de notre vie assez facile.
Ça, puis j'ai l'impression que tu peux pas dire que c'était pas bon hier. T'aurais pas le droit.
C'est sûr, c'était bon.
Puis je pense que dans les critiques de musique, là, c'est le genre de show hier que faut le dire à quel point c'était bon parce qu'on est un critique de musique et nous, on connaît ça, la bonne musique. Fait que ça, c'était le petit côté. Cela dit, j'ai passé une belle soirée. Le visuel du show de Patrick Watson était super cool. Le gars parlait de temps en temps à la foule avec son petit accent anglophone. Mais tu vois que ça lui fait plaisir d'être là puis de parler en français. Puis il dit Québec, depuis le début, était là pour ma musique, puis c'est grâce à Québec, aux régions du Québec, que maintenant, ben, je suis capable d'avoir une carrière à l'international aussi. Mais reste que c'est ça, c'était mollo, là. Puis c'est le genre de show que t'auras pas trois fois par Festival d'été de Québec. T'en as un ou deux, trois ans comme ça. C'est cool, c'est différent, mais tu sais, je te dirais pas que j'ai passé la soirée de ma vie hier, là.
Il y a une partie de moi, c'est sûr qu'il faut que tes attentes soient différentes, on s'entend, là. Mais il y a une partie de moi qui aurait vraiment aimé être au fond des plaines sur une couverte, relax.
Ben tu vois, j'aurais probablement plus apprécié le show en étant au fond des plaines, couché que debout en avant dans...
Ah mais oui, c'est une ambiance,
c'est
ça.
C'est ça, là. T'as du monde qui parle un peu autour. Là, le karma hier m'a frappé et a mis des enfants qui crient à côté de moi pendant ce show-là. merci au karma pour ça.
Ça se comparait-tu à Alexandra Strelitzky? Il y a beaucoup de gens qui avaient ce comparatif-là en parlant de la soirée qui s'en venait.
C'est qu'on n'a pas vraiment d'autres comparatifs du genre « c'est pleine ». T'sais, oui, c'est ce qui ressemblait le plus à Strelitzky dans le sens où c'est très, très, très mollo. Pis... Mais c'est ça, j'ai pas... J'aurais pu avoir ça un 45 minutes pis ça aurait été correct. T'sais.
Mais je pense que t'es le genre de gars aussi en show qui aime bouger, fêter. Qui... Tu sais, c'est peut-être pas non plus ton style de musique à prime abord. Est-ce que je me trompe? Là, j'y vais vraiment d'un jugement.
Je vais voir beaucoup d'artistes.
Mais rarement tu t'en vas. Je t'ai jamais vu aller voir l'orchestre symphonique ou aller voir du piano, toi.
Non, ça, non. Mais tu sais, des artistes beaucoup plus acoustiques puis des shows intimes, oui. Mais là, c'est ça. C'est beaucoup plus musical que vocal. C'est sûr que c'est moins dans mon genre, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est plein hier. C'était en majorité des curieux plus que des grands fans de Patrick Watson.
Est-ce que vous étiez là hier, 88-971-1021? Je peux pas dire que ça m'a pas fait du bien de dormir un peu. Sais-tu ce que je trouve toujours difficile avec le fait que je trouve ça plus facile de manquer un show que t'as déjà vu?
Ouais.
C'est un artiste que t'as déjà vu à limite. Patrick Watson, on s'est jamais croisé dans une salle, là. Et là, j'ai comme plan de récupérer ça à un moment donné. Mais je suis curieuse de voir ce que vous en avez pensé. Je sais qu'on a des auditeurs qui sont très ouverts au niveau de la musique, mais qui quand même tirent vers le rock à la base. Fait que je suis curieuse de voir comment vous avez trouvé ça.
Je suis content d'avoir été là.
Cette toune-là, là...
J'ai pas l'impression d'avoir perdu ma soirée, tu sais. Je suis content de l'avoir vécu. Ça a été une soirée beaucoup plus tranquille que les autres. Fait que non, je suis content d'avoir vécu, puis je pense que c'est quelque chose que tu coches. Okay, j'ai vu Patrick Watson, c'est plein, c'était cool.
Comment t'entrevois ce soir?
Ça, là, The All American Rejects, 19h. Ça pourrait pratiquement être un show de tête d'affiche, puis j'exagère un peu, là, mais ça aurait pu être tête d'affiche George V, The All American Rejects.
La peur de beaucoup de gens avec The All American Rejects, c'est que ça fasse un peu Weezer Billy Talent.
Ben, c'est sûr, ça va faire ça.
Ouais, où t'as la première partie qui drive pas mal plus que le reste. Chose certaine, c'est des styles différents. Moi, j'ai hâte de voir si les gens qui sont là pour The All American Rejects vont toffer jusqu'à quelque chose.
Ben, je pense que oui, parce que ça reste. À soi, c'est comme un show d'époque. On dirait le monde va avoir pas mal le même âge, ça va triper.
Tu vas-tu en tour ce soir?
Non!
Non?
Je me préserve pour vendredi.
Ah, pour Muse. Ça va tellement être une belle soirée. Tu vois, il y a The All American Rejects. Après ça, ben, il y a Shaggy qui va prendre d'assaut les plaines. C'est drôle parce que Il y a beaucoup de monde qui sont comme Shaggy. Shaggy, qu'est-ce qu'il fait, Shaggy? Shaggy a une couple de tunes que vous connaissez très bien.
Mais c'est ça, The All American Rejects va voler le show à soir. Là. T'sais, avec la dose d'énergie, pis là t'arrives, pis c'est ça, même si c'est bon.
Mais peut-être qu'en show, il est fait plus énergique. Là.
Ah, moi, je pense que ça va être le contraire. Je pense qu'il va être. Ben, pis là, je vais dans le gros jugement, là. Mais je pense qu'il va partir la track, chanter une couple de mots par-dessus. Okay, mais c'est ce que je redoute.
Tu vois, je pense que les mélomanes redoutent ça simplement parce que The All American Rejects, ça risque d'être full band, là, on s'entend.
Ben oui, ben oui.
Tandis que Shaggy pis Kesha, on le sait que ça va être full playback pis c'est plus de la musique pour danser puis se remémorer des souvenirs, là. Tu sais, Angel, que je vous ai fait entendre, ça, c'est Hey Sexy Lady, on connaît ça. Ça, tout le monde connaît ça, voyons. Wasn't Me.
Mon chum me chante ça constamment
ben
dans
là,
la maison.
T'sais.
C'est qui a fait... C'est Wasn't Me.
mais limite, même qu'il est chaud, moi, ça va bouger puis ça va être énergique avec la musique. Ça, c'est parce que c'est... Oui, c'est de la petite... C'est mollo, là.
Mais c'est de la nostalgie, Max. Oui. La nostalgie, ça pousse fort.
Moi, je pense que demain, tout le monde va être déçu de Shaggy.
Moi, je pense que tu bosses.
Ben, on a un texto qui est rentré, d'ailleurs, des auditeurs dans la cinquantaine qui disent qu'ils vont aller voir les deux premières parties puis qu'après, ils vont changer de scène.
Mais ça me surprend pas parce que quand on parle de Kesha, évidemment, bon, vous connaissez les gros
parce
hits.
Que c'est Lord Huron sur l'autre scène. Puis oui. Moi, c'est quelque chose que j'avais contemplé aussi d'essayer de faire les deux.
Ah ouais?
Ben, j'adore Lord Huron, particulièrement une chanson qui est celle que tout le monde connaît.
Je vous fais entendre Kesha puis on va aller écouter après ça ce qu'il fait. Fait que Timber, qui est avec Pitbull, si je me trompe pas.
Ça va être que des hits, là.
Ben oui, non, hit après hit, là. Évidemment, tout le monde connaît celle-là. Je pense que c'est la tune la plus nostalgique d'une certaine génération.
Le genre de show, peu importe la performance qui va être donnée, tout le monde va triper et tout le monde va s'en foutre.
C'est sûr que oui, là. Dance. Fait que, vous voyez vraiment le genre. C'est là qu'on s'en va ce soir, là. Mais toi, tu me dis que c'est Lord...
Lord Huron, avec la toune de Night We Met que je rêve d'entendre un jour en vrai quelque part. Là.
Et ça, là.
Toune qui a été notamment connue dans la série 13 Reasons Why.
Oui. Ben oui.
C'est tellement une belle chanson, je veux tellement entendre ça un jour. Mais...
Ben là, c'est sûr que c'est la chanson avec laquelle il va terminer en partant.
Ben,
fait qu'on se sauve à la fin.
Mais c'est relatif. Hier, Patrick Watson n'a pas fini pantoute avec sa grosse toune. C'est rendu que les artistes, on dirait qu'ils essayent. C'est tellement évident qu'ils vont faire ça que les artistes essayent de nous surprendre.
Louis Fonda a soir, pas eu le mémo, ça se dit. Là.
Ce soir, The All American Rejects commence avec sa plus grosse toune.
Oh, ouais, hein.
Fait que soyez là à 19h en passant. Là. C'est tellement bon.
Hey, mon Dieu, tu me crées.
Lord Huron qui est sur la place Georges V, le scène Loto-Québec, à 21h15.
D'ailleurs, grosse soirée, oui, pour le Festival d'été de Québec, mais faut pas oublier qu'au Centre Vidéotron...
Ça aussi, c'est gossant.
Ben, c'est tannant, mais c'est Shinedown qui va être là ce soir. Shinedown qui devait sortir son dernier album, 8, le 8e, l'année passée, littéralement dans les mêmes dates. Finalement, on l'a sorti, c'est le 29 mai de mémoire, et on avait annoncé du même coup ce soir leur présence du côté du Centre Vidéotron. J'ai vu quelques textos rentrer pour dire... Nous autres, c'est carrément là qu'on s'en va. T'sais, sur le dernier album, là.
Et en passant, après une petite recherche, Lord Huron ne finirait pas avec sa grosse toune, semble-t-il.
Ben là, c'est plus dans le début.
C'est vers la fin, pareil.
Bon.
Mais il finirait pas avec.
Ça va être tannant, ça.
En première partie de Shinedown, il y a Coheed and Cambria aussi, qui est un band que j'aime beaucoup, que j'aurais aimé voir. C'est vraiment gossant. Quand j'ai vu que ça tombait pendant le fait, que j'ai comme fait « ish », puis là, ça tombe cette soirée-là, qui est potentiellement la plus grosse soirée du FEC cette année. Là. Comme tant mieux, ça montre à quel point Québec peut être une ville de musique puis d'aller de tous les bords. Mais pour ceux qui aiment tous les genres, c'est très tannant.
Ceci dit, tu vois, moi, le choix ce soir, ça a été simple. Ça a été... Ben, j'ai vu deux fois Shinedown. Je le sais que ça va
même
être
affaire.
Bon. Mais j'ai jamais vu The All American Reject, j'ai jamais vu Shaggy, j'ai jamais vu Kesha puis Lord Huron, fait que c'est probablement là que je me dirige assurément. Il y a quelques personnes quand même par texto qui décident de se rendre au centre Vidéotron. 88-971-1021 si c'est votre cas. On va avoir une solide soirée musicale puis on aura assurément les possibilités de s'en jaser demain. Présentement, pour ceux justement qui s'en vont à l'extérieur, aujourd'hui, c'est un 25 degrés qui fait 27 ressenti avec l'humidex ce soir et cette nuit. On est à 16 avec un 40 % de possibilité d'averse. Max, tu vois-tu que ça va nous tomber sur la tête?
Pas en tout. Ça va bien aller à soir.
Bon, demain, vois-tu, on est à 21. 30 % de possibilité d'averse. Ça va être plus frais demain en soirée, en passant vendredi aussi. Là, on est dans les 10-12. Fait que ça va peut-être être le temps de sortir une petite laine, quelque chose. Vendredi, samedi, dimanche, autour de 25, gros soleil. La pluie qui serait de retour seulement mardi prochain, puis c'est trop loin pour s'en soucier. Si vous êtes sur les routes, la capitale, direction Est, auteur Robert Bourassa, c'est au ralenti, direction ouest. Ça se passe entre Henri Bourassa et Laurentienne. Quelques problèmes aussi sur Henri IV Sud, pardon, à la hauteur de Charest. La 20, direction ouest, ça va se passer entre Chemin des Îles et Taniata pour l'instant. Quelques problèmes aussi sur Guillaume Couture, entre Monseigneur Bourget et la route du président Kennedy. S'il y a autre chose, vous ne vous gênez pas. Je vous l'ai dit tantôt, un texto, c'est facile. 88-971-1021, un texto. Il y a le Festival d'été de Québec, dont on jase beaucoup, qui se termine dimanche, mais il y a le festival après ça qui s'en vient. Si vous êtes des fans du festival du côté de Lévis, 29 juillet au 2 août, c'est toujours un festival que j'apprécie énormément. Puis ce qui est le fun, c'est qu'aujourd'hui, on vous parle de la programmation complète et on fait un gagnant, une paire de laissez-passer pour les 5 jours. C'est à ne pas négliger en passant, si vous hésitiez. Là, je veux dire, au programme Marshmello, Salbar, Papa Roach, Jeff Posé, The Offspring, Angine de poitrine qui va être là si vous n'avez pas vu le phénomène encore, Vulgaire Machin.
Il y a vraiment
des beaux noms. Puis pour avoir vu et Angine de poitrine, une petite partie, et Papa Roach du côté du Festivois à Trois-Rivières, Max était avec moi, c'est un solide show.
Puis moi, c'est Jeff Posé que j'ai hâte de voir en solo aussi, parce que Jeff Posé, oui, a sorti son premier album solo, mais fait à peu près, de ce que je comprends, le trois quarts des tunes, c'est des tunes
des
Cowboys.
Mais c'est ça, ça
fait que ça, c'est comme un genre de show des Cowboys. Ah, là, le party va pogner là, puis il y a de l'émotion aussi. Moi, c'est Jeff Posé, j'ai hâte de le voir pour une première fois en show.
Ben, tu vois, je ne l'ai jamais vu solo, puis effectivement, moi aussi, c'est dans ma liste. Tu sais, je parlais de Papa Roach. Si vous les avez vus l'année passée à l'Agora, on est dans le même type de spectacle. Ça se ressemblait pas mal au Festivois. J'ai l'impression que ce sera la même formule au Festivant. Ceci dit, c'est une formule qui est gagnante. Donc, vous voulez gagner vos billets pour le Festivant qui a plus de 40 ans. C'est simple, vous m'écrivez. 88-971-1021, c'est passeport adulte en pré-vente à 80 et 99 pour un temps limité en ce moment. Allez acheter vos billets, mais on vous offre un passeport pour les 5 jours parce qu'on est partenaire justement du festival. Donc 971-1021, votre nom, votre numéro de téléphone, le band ou l'artiste que vous avez donc hâte de voir au festival. On fait le gagnant dans les prochains instants. Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est parti jusqu'à 18h dans le retour de Boulevard. Le retour. C'est une journée d'actualité un peu moche, dans la mesure où on est beaucoup dans le fait divers, hein, Max? On est beaucoup dans tout ce qui touche la drogue, les stupéfiants, le BFM et compagnie.
Ouais, vraiment. Puis je commence d'ailleurs avec une opération policière. On n'a pas encore énormément de détails. En fait, on n'en a pas vraiment. Là. Entreprise de Beauport qui a été ciblée là, par la police de Montréal, assistée du SPVQ dans une opération liée au trafic de stupéfiants. C'est à peu près tout ce qu'on sait. Les autorités qui n'ont pas voulu donner de détails. Il y a des images de ce qui se passait chez Metal Beauport Inc. qui ont circulé sur Internet. On voit notamment des individus qui semblent être menottés. Fait que les autorités qui ont dit « on va vous donner un bilan quand on aura terminé tout ça ». Fait que peut-être qu'au courant de l'après-midi, j'aurai plus d'infos à vous donner. Un jeune de 16 ans impliqué dans les événements qui avaient mené à la mort d'un ado de 14 ans à Frampton en Beauce en 2024 a reconnu sa culpabilité ce matin. Le journal qui rapporte qu'il a plaidé coupable à deux accusations d'incendie criminel, fait qu'un sur une résidence, puis l'autre sur un véhicule, et d'avoir comploté pour commettre un acte criminel, donc là, lié encore une fois là, aux incendies. À noter qu'on ne sait pas grand-chose parce qu'il y a ordonnance de non-publication à la demande de la poursuite parce qu'il y a un accusé d'âge adulte qui attend son procès, fait que dans ce temps-là, on ne veut pas tout dévoiler parce qu'il y a des informations qui peuvent nous être utiles dans l'autre procès qu'on ne veut pas donner immédiatement. Rappelons qu'un adolescent de 14 ans, Mohamed Yanis Segouani, avait été retrouvé retrouvé sans vie près du repère d'un club-école des Hells du côté de Frampton. 4 arrestations qui ont été réalisées là, dans cette affaire-là. Julien Le Guédard, un individu de 22 ans associé au Blood Family Mafia, de nouveau été arrêté ce matin par la police de Lévis, mais là, on n'est pas nécessairement dans des affaires de drogue. Il fera face à la justice pour des accusations d'agression sexuelle, voies de fait, harcèlement criminel, obtention de services sexuels moyennant rétribution et cruauté animale pour des événements qui seraient survenus entre janvier 2023 et mai 2026. Le Guédard qui devait comparaître cet après-midi à Québec. Début juin, il comparaissait aussi pour avoir été accusé là, d'avoir mis le feu au local d'un club-école des Hells du côté d'Alma. Pierre Gagné-Boilly, condamné en 2020 à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 12 ans pour avoir tué sa femme en 2017 à Lévis, devra encore attendre avant de retrouver sa liberté. L'homme qui contestait en février dernier la décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada qui ne lui accordait pas de permission de sortie, mais voilà que la section d'appel a confirmé dans les derniers jours la décision de la Commission. Le journal qui rappelle qu'il y a quelques mois, la Commission était inquiète du fait que le détenu n'ait aucun souvenir des gestes qui avait mené à ce drame-là. Rachel Renault, la sœur de Gabi Renault, se présentera pour la coalition Avenir Québec dans la circonscription de Bellefeuille. On a beaucoup vu Rachel Renault après le décès de sa sœur Gabi dans un contexte de violence conjugale et c'est son combat notamment là, qui a mené à l'adoption de la loi qui va permettre à une femme qui craint pour sa sécurité d'obtenir des renseignements sur les antécédents en matière de violence conjugale d'un partenaire.
Ce qui est génial en passant.
Vraiment, ce que Rachel Renault a mentionné, c'est qu'elle avait choisi de joindre ses forces à celle de Christine Fréchette et de sa coalition. Dit que là, quand elle l'a rencontrée, elle a eu un coup de cœur pour elle, pour sa façon de faire. Dit que ça correspond à sa volonté de faire une différence dans la vie des gens, puis c'est ce qui l'amène en politique. Une volonté qui prend racine dans son parcours professionnel. Dit qu'elle est une femme de ressources humaines et qu'avant de chercher des réponses, ben, elle a appris à écouter. La CAQ qui change de nom et d'image. La semaine passée, le nouveau nom, Équipe Christine Fréchette, Coalition Avenir Québec, qui a officiellement été approuvé par le DGEQ. Mais on va un petit peu plus loin du côté du parti, au point où sur le site web de la CAQ, il y a un logo en haute page qui fait même pas mention de la CAQ ou de la Coalition Avenir Québec. Où, ce qu'on peut lire, c'est vraiment juste Équipe Christine Fréchette. Samedi, en annonçant qu'elle sera à nouveau candidate, la ministre responsable du sport, du loisir et du plein air, Karianne Bourassa, parlait dans son annonce de l'équipe de Christine Fréchette, ne mentionnait pas la CAQ, la direction du parti qui confirme que le désir, ben, c'est vraiment de mettre à l'avant la nouvelle chef. Le gouvernement du Québec qui veut mieux s'adapter aux régions de la province, le ministre responsable de la jeunesse et ministre délégué aux régions, Mathieu Lévesque, et la ministre responsable de l'administration gouvernementale et de l'efficacité de l'État, qui est aussi président du Conseil du Trésor, ben, ont annoncé ce matin l'élaboration d'une directive gouvernementale visant à intégrer de façon systématique les réalités territoriales dans la conception des programmes gouvernementaux. Québec qui parle d'une nouvelle étape dans la volonté du gouvernement de mettre fin aux approches mur à mur et de faire des régions un véritable réflexe dans les décisions publiques. On mentionne que l'orientation découle directement des travaux du Conseil des régions, mis en place au printemps dernier, ainsi que des échanges tenus lors des tournées effectuées par le ministre Lévesque dans les régions du Québec. C'est fou, en tout comment la CAQ prend toute la place dans l'actualité cette semaine avec ses annonces. Puis, moi, ça me fait rire parce que dans les communiqués, dans les nouvelles, tu sais, on dit le gouvernement du Québec, Québec annonce telle affaire.
Oui,
alors
pas la
CAQ,
là.
Mais c'est la CAQ qui est en pré-campagne électorale puis qui a ce beau jeu-là avant tout le monde.
D'ailleurs, désolé de faire une grasse plug, mais j'ai écrit une chronique ce matin que vous pouvez lire sur Nouveau.info là-dessus, justement, qui s'appelle « Bledin des millions », parce que je m'interrogeais sur, premièrement, l'efficacité de faire des annonces en plein été, parce que est-ce que les gens sont vraiment à l'écoute? D'habitude, l'été, c'est plus pour faire des épluchettes de bledin, mettons, faire le tour des festivals, serrer des mains, prendre des petites photos, prendre des bébés. Ça, t'aimes ça beaucoup.
Ah, moi, prendre des bébés. Toi, si je fais de la politique un jour, là, c'est clair, ça va être mon activité préférée.
Sauf que là, ben, quand tu tombes dans un été préélectoral, généralement, ça bouge un petit peu plus au niveau politique. Les gens écoutent un peu plus. Il y a beaucoup d'indécis. On regarde les sondages. Il y a quand même pas mal de gens qui ne se sont pas décidés encore. Mais là, le parti qui est au gouvernement a un avantage non négligeable parce que tu dépenses des deniers publics. Donc, ce n'est pas des dépenses électorales.
Non.
Là, il y a un nouveau chef à la CAQ. Elle veut se démarquer. Elle a promis des affaires pendant la course. Mais là, si elle abuse, là, puis que, tu sais, pour vrai, si elle continue de faire des annonces Après les vacances de la construction, je pense que ça va y revenir d'en face comme un boomerang parce que les adversaires vont dire qu'on fait de l'électoralisme avec des fonds publics et les gens ont quand même une écœurantite de la CAQ. Donc, Christine Fréchette, c'est comme si on lui donnait le bénéfice du doute. Mais dès qu'on commence à parler de la CAQ, là, puis on le voit dans les textos puis les commentaires sur les médias sociaux qu'on reçoit, les gens, ils sont comme « Ah, oh, c'est bien, c'est la CAQ », puis ils prennent l'argent public puis ils gaspillent. Donc, il faut qu'elle fasse bien attention, je pense.
De là, le changement de nom et d'identité un peu aussi. On en reparlera plus tard. Au lendemain du départ de sa conseillère Annick Tremblay, Prospecter les villes, parti du maire Blainé, qui doit composer avec un autre mouvement de personnel. C'est pas un départ en tant que tel, là, mais le soleil a appris que le président du parti, le conseiller de Taniata, Éric Bilodeau, a décidé de quitter la présidence de Prospérité Lévis. Restera quand même, pour le moment, du moins un membre du parti. La décision de M. Bilodeau, qui serait en partie liée aux inconforts des derniers jours dans l'équipe du maire, où ça a l'air de brasser un petit push. Et la Banque du Canada, qui a annoncé ce matin le maintien de son taux directeur à 2,25%. C'est un sixième maintien consécutif du taux directeur. La banque s'attend à ce que l'inflation revienne vers la cible de 2% dans les prochains mois, après une augmentation en raison du prix du pétrole. Au sport, Coupe du monde de la FIFA, ça commence dans la prochaine demi-heure pour ce qui est de la deuxième demi-finale. L'Angleterre et l'Argentine qui s'affrontent. Le gagnant qui ira rejoindre l'Espagne en finale après la victoire des Espagnols 2-0 hier sur la France. La Ligue nationale de hockey qui a annoncé ce matin le premier match local respectif de toutes les équipes en vue de la prochaine saison. Donc, on sait que le Canadien recevra pour l'occasion le 6 octobre les Hurricanes de la Caroline au Centre Bell. Donc, des retrouvailles qui vont venir assez rapidement entre le CH et les Canes. Les Red Wings de Détroit qui ont annoncé ce matin un changement à la tête des opérations hockey de l'organisation. Steve Yzerman, qui quitte ses fonctions de vice-président exécutif et directeur général, va quand même continuer de servir l'organisation en tant que conseiller principal auprès du gouverneur et CEO des Wings. On dit qu'un processus de recherche est en cours pour trouver un nouveau responsable des opérations hockey. Et le Québécois Anthony Manta a finalement trouvé preneur sur le marché des agents libres. S'est entendu pour 2 ans avec les Devils du New Jersey. Touchera annuellement 4,5 millions de dollars. Manta, 31 ans, qui sort d'une saison record pour lui avec 33 buts et 64 points avec Pittsburgh. Il y en a beaucoup qui disent « Ben voyons donc, Ken Hughes n'a pas voulu donner au moins 2 ans, 4,5 millions à Manta. » Ça se peut que Manta ne voulait pas venir à Montréal aussi. Je dis pas que c'est ça. Mais à un moment donné, si le gars veut pas venir jouer à Montréal puis préfère aller au New Jersey, ben tu peux pas y tordre un bras non plus.
Merci, Max. Dans la catégorie culturelle, êtes-vous des grands lecteurs, vous autres?
Pas de moins en moins, puis je pense que c'est la faute des téléphones intelligents, mais en vacances, plus, vraiment plus, pendant l'été. Là.
OK,
ouais.
Tu prends des... Max, tu lis-tu beaucoup, peut-être?
J'avais recommencé, puis j'ai arrêté vite, malheureusement.
Moi, je mentirais de dire que je suis la plus grande des lectrices. Là, j'ai longtemps apprécié ça. Je sais pas si c'est parce qu'on lit beaucoup dans notre job, fait qu'on dirait que le soir, c'est pas ce qui me détend, là, mais il y a une série de livres que j'ai commencé, que j'ai vraiment apprécié dans les dernières années, puis je pense que ça s'adresse aux gens, justement, qui trippent pas nécessairement lecture, mais qui ont une certaine curiosité, c'est les livres Cœur policier. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est la journaliste, en fait, Marie-Andrée Fallu. Elle, son chum est policier, puis elle a décidé, il y a une couple d'années, de sortir le premier tome. Là, on est rendu à 3, si je ne me trompe pas, de Cœur policier. Ce que c'est 30 histoires. On a demandé à 30 policiers au Québec de se prononcer sur le moment le plus marquant de leur carrière. Fait que chaque histoire dure en 2 et 5 pages, mettons, là. Et là, on va mettre vraiment, tu sais, matricule, nom, la région, puis bon, le titre, si on veut, de l'histoire, parce qu'il y a des histoires hyper connues, comme il y en a des vraiment moins connues.
C'est juste du lourd ou il y a du beau
non,
aussi?
Non, il y a du beau aussi. Tu sais, il y en a que ça va être après, je sais pas moi, 30 ans de carrière. Ce qui les a le plus marqués, ça va être une affaire super positive reliée à une niaiserie. Tu sais, il y en a pour qui c'est des choses... Puis c'est ce que j'aime de ce livre-là. Tu as des affaires où tu vas vivre des tragédies de l'intérieur, c'est-à-dire de la vision du policier qui a dû gérer la scène, la situation. Puis tu as des affaires un peu plus positives, mais ça se promène partout. Puis c'est à différents degrés. C'est pas juste des affaires de meurtre, puis des affaires de... Des fois, ça va être la journée la plus marquante parce que c'est un collègue qui a été blessé ou c'était la première journée dans le corps policier pour cette personne-là en sortant de Nicolette, puis il est arrivé quelque chose de gros, mais c'est super bien fait. Et c'est ça, on est rendu au 3e tome, puis je vous en parle surtout parce que Crave a annoncé hier que Cœur policier va devenir une série documentaire qui va carrément lever le voile sur les coulisses des interventions policières.
Yes, on n'aura même plus besoin de lire.
c'est ça qu'on attendait.
c'est super intéressant à lire, pour vrai, parce que tu sais, t'as pas à... Moi, j'ai un peu... J'ai le petit déficit d'attention facile en fin de journée, là. Fait que ça m'arrive des fois de devoir lire, mettons, trois fois la même page pour me comprendre, là, si je lis un roman qui est comme un peu plus lourd.
Hey, mais ça, c'est un fléau, là. Moi, je suis plus capable de lire à cause de ça, puis mon sel à côté. Comme tu sais, à ça, ben, parce qu'à ça, même tu regardes Netflix, des fois, tu le prends ton sel, tu fais autre chose, puis avec un film, une série, ça va. Mais avec un livre, c'est parce que t'es tout le temps mêlé.
Ça va. Mais
tu perds des bouts
de
pareil,
c'est sûr.
À un moment donné,
moi, j'écoute des affaires en langue originale, ouais, sous-titrées. Puis là, à un moment donné, je suis comme, j'ai rien compris de ce qui vient de se passer. Puis je suis en train de regarder mes notifications.
Perdu le fil. Ouais.
Donc, effectivement, le livre, pour lire de manière concentrée, il faut que je mette mon téléphone ailleurs.
C'est parce que le but de la lecture, c'est de te laisser porter aussi ailleurs, puis d'ouvrir ton imaginaire. T'sais. C'est dur à faire quand tu es tout le temps ramené à la réalité. Là. Si jamais ça vous parle, la série dont je vous jase, Cœur policier, ça va être diffusé, bon, entre autres à Canal D, là, les vendredis 20h à partir du 28 août, mais ça va être diffusé sur Crave, je ne vais pas dire n'importe quoi, blablabla. 10 épisodes de 30 minutes, OK, à partir du 17 août sur Crave, donc, si vous êtes abonné. Puis donc, Canal D, c'est à partir du 28. Mais à partir du 17 août, vous allez pouvoir voir les 10 épisodes. Puis je trouve ça super intéressant parce qu'on a décidé carrément de prendre les histoires, justement, de ces policiers-là puis de les amener à la télé. Fait qu'effectivement, Max, tu vas pouvoir avoir peut-être une étincelle de ce que sont les livres, puis je sais pas si ça va te donner le goût de les lire, mais c'est vraiment la chose, moi, que j'ai lue dans les dernières années qui m'a accrochée. Fait que je trouvais ça le fun de savoir qu'on allait mettre nos policiers de l'avant, parce qu'il y en avait fait une série avec le SPVQ, il me semble, une couple d'années à TV.
C'était quoi déjà? Mais oui, je me souviens qu'il y avait une série, puis c'était fascinant, là, t'envoyais des vertes puis des pas mûres.
Police en service.
Oh, c'est ça.
Sur Télé-Québec. Moi, j'avais vraiment aimé ça, pour vrai. Là. Puis c'était vraiment avec le SPVQ qu'on avait fait ça, mais ça devait être excessivement compliqué, honnêtement, à tourner puis à gérer, oui, là, pour le corps policier. Là. Mais c'était le fun. Fait que de savoir qu'on fait quelque chose du genre, bref, je trouvais ça trippant. 88-971-1021 texto, je regarde sur les routes, ça continue de se compliquer. Capitale, direction Est, c'est à la hauteur de Robert Bourassa. Si vous êtes sur Henri IV Sud, à la hauteur de Charest, vous sentez un certain ralentissement. L'entrée des ponts, ça commence là, surtout à partir d'Henri IV. Et sinon, c'est vraiment la 20, direction Ouest, entre la route du président Kennedy et Taniata. Quelques ralentissements aussi sur Guillaume Couture dans les deux directions, entre Monseigneur Bourget et la route du président Kennedy. Quoi que ce soit, soit c'est le 88-971-1021 texto. On revient. Le retour. À 15h43 minutes, vous êtes dans le retour de Boulevard 102.1. On va jaser dans les prochains instants de la Coupe du Monde parce que c'est les demi-finales qui commencent. Et à 15h, ben, c'est la demi-finale qui va poser Angleterre et Argentine. Donc, la question, qui va affronter l'Espagne en finale? Et il y a un pas quand même historique et politique à cet affrontement-là. Ça vaut la peine d'aller fouiller un peu dans l'histoire. Juste avant, Max, il y a une nouvelle de dernière minute qui vient de tomber concernant une garderie et un enfant à Québec.
C'est le Journal de Québec qui nous raconte cette histoire-là qui a comme pas de bon sens. Là. Le SPVQ qui enquête sur un événement qui serait survenu, je vais regarder le conditionnel, dans une garderie de Beauport vendredi dernier. Ce qu'on nous rapporte, c'est qu'un enfant de 2 ans qui aurait chuté du deuxième étage de la garderie Le Monde des Frimousses, puis les services d'urgence n'auraient pas été contactés. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont rendues disponibles par les autorités pour l'instant. Ce qu'on raconte, c'est que le petit aurait échappé à la surveillance du personnel, serait tombé d'une fenêtre qui avait été endommagée quelques jours auparavant. Et on dit qu'il serait resté sans assistance pendant environ 30 minutes après sa chute.
Pardon?
Là, c'est-tu que personne s'en est rendu compte avant une demi-heure? On sait pas. Et le personnel n'a pas appelé l'ambulance, puis on aurait aussi attendu plusieurs minutes avant d'appeler les parents. On n'a pas idée de l'état du bambin. Le journal qui n'a pas été en mesure de parler aux parents non plus au moment où on se parle. Le SPVQ de son bord, c'est pour ça qu'on n'a pas toutes les informations. Là. Le SPVQ qui dit « On enquête sur ce dossier-là depuis lundi, mais on donne pas plus d'informations que ça, assez troublant.
Hey, moi, mon enfant va se garderie là, je panique. Là.
Ben, c'est parce que tu confies ton enfant. Puis tu sais, je veux dire, la fenêtre est endommagée, les enfants ont accès à une fenêtre endommagée.
Ça marche pas.
Non.
Il y a tellement des règles
qui sont...
serré en plus, là, normalement, dans les garderies. Fait clairement, il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job à quelque part. Là. Mais vous avouez que moi, c'est probablement ma plus grande peur, ça. Ouais. Dans tout le processus de parentalité, là, ma mère a eu une garderie pendant 25 ans en milieu familial. Il y a des milieux familiaux où il y en a eu des tragédies, mm-hmm. on s'entend, là. Tu sais, moi, j'ai été élevée dans un milieu familial où ma mère, il y avait plus d'amour que possible. Je veux dire, tout était une raison de célébrer, de souligner et de mettre l'enfant de l'avant. Puis j'ai été suppléante aussi dans ces garderies-là, un peu plus vieille quand j'ai fait mes cours. Puis je me suis toujours dit, ah, ben je vais envoyer mon enfant dans un milieu familial, tu sais. Moi, j'ai été élevée là-dedans, je vois que c'est beau, c'est bien fait. Là, tu grandis, tu vois quel est le monde réel et véritable, puis tu te poses des questions. Mais je salue les parents, en fait. C'est un acte de foi de faire confiance à des inconnus pour garder ton enfant dans une époque où, en plus, il manque de place, fait que t'as même pas le choix.
Non, t'as pas le choix. C'est ça qui est le pire. Moi, j'ai envoyé mon enfant dans une garderie pendant quelques temps, qui était une garderie privée, donc pas un milieu familial. Mm-hmm. Pas un CPE. Et c'était, à la visite, correct. Correct. T'sais, je dirais que le directeur ne me faisait pas la meilleure des impressions, mais les éducatrices, je les trouvais bien, tout ça. Ça a été un cauchemar.
Ah, pour vrai?
Un cauchemar. Ouais. Ben, premièrement,
qu'est-ce
il y a
une qui fonctionnait
fois,
pas?
Ben, il y avait des choses dans la garderie qui ne fonctionnaient pas. Il faisait très chaud, il ne mettait pas l'air climatisé. Il faisait tout pour économiser de l'argent, premièrement. À un moment donné, je prends mon petit, je le mets dans le banc d'auto. Puis là, je vois qu'il y a comme la bouche sale. Puis je suis comme, qu'est-ce que t'as? Puis là, t'as quelque chose dans la bouche? C'est quoi? Il y avait un caillou dans la bouche. Donc, la cour d'une garderie n'est pas supposée d'avoir des cailloux dedans.
Non.
Après ça, on commençait les plaintes à la DPJ. Donc, les éducatrices se dénonçaient les unes les autres pour des gestes. Et effectivement, il y avait des gestes qui avaient été posés qui n'étaient pas corrects. Bref, je capotais. J'ai failli lâcher ma job puis revenir chez nous. Je capotais, puis finalement, je me suis trouvée une place en CPE à ce moment-là. Mais un cauchemar. Et je me disais, mais je suis prisonnière.
Tu peux pas rien faire. Puis ce qui est triste, c'est que tu as tellement des milieux, autant en CPE qu'en milieu familial, où ça se passe super bien, puis où gens, c'est une vocation, puis sont passionnés. Puis je veux dire, c'est extraordinaire de laisser ton enfant là. Ma mère, elle a encore des contacts avec les kids qui sont rendus à 14-15 ans.
Pas.
Elle est descendue à Québec voir le spectacle d'une il n'y a pas longtemps. La garderie est à Montréal dans le temps. Je veux dire, il y a des milieux où ça marche tellement bien, mais il suffit que tu tombes sur un citron pour que ce soit...
Ça nous frappe l'imaginaire. Ah, comme parents, ça nous fait capoter. Là. On a
des histoires de bébés secoués, des histoires... Tu sais, il y a des manquements énormes. Puis moi, ce qui me fait peur, c'est que il n'y a pas beaucoup de règles pour ouvrir une garderie. Tu sais, de plus en plus, on fait attention.
Ils ont resserré un peu. C'est qu'il y a eu des années où il y avait des garderies non régies.
Ben
là,
oui,
ça, ce n'est plus permis.
Effectivement.
Puis ça, c'était... Puis je suis sûre qu'il y en avait des bonnes, OK? J'en suis persuadée.
Mais ce que je veux dire, c'est
mais
que
les
monsieur,
histoires d'horreur,
tout le monde...
c'est souvent là. Tu sais, genre, le chien a mordu un enfant dans une garderie, c'était dans des milieux non régis, mettons.
Puis tu sais, t'es censé... Il y a tellement de règles. Quand t'as un animal, il faut que ton animal soit assuré par rapport à ta garderie. Il y a plein de règles qui sont pas nécessairement respectées. Puis ce que je veux dire quand je dis que c'est facile d'ouvrir une garderie, mettons, en milieu familial, c'est le fait que, je veux dire, c'est pas super long, là, aller chercher deux, trois petites formations, là, puis ouvrir ça chez vous.
Puis on en veut des places en garderie, fait que j'imagine que... J'espère qu'on ne met pas trop de bâtons dans les roues.
On les accepte, mais
ça veut
dire...
Mais c'est dur comme parents. Tu sais, ils sont petits là, quand on les envoie à la garderie.
Absolument. Hey, y en a qui envoient leurs enfants à comme 4 mois parce qu'ils n'ont pas le choix.
En passant, au Québec, on les envoie quand même pas si vite. Aux États-Unis, ils n'ont pas de congé de maternité. Fait que beaucoup de femmes envoient leur bébé à la garderie en 4 mois.
Oui, c'est complètement débile.
Ah non, je dis la garderie, mais c'est souvent c'est des nounous puis tout ça. Là.
Déjà, c'est un acte de foi. Dans certaines garderies, je veux dire, t'es seule comme éducatrice pour 6 enfants. Tu peux en avoir 6, dont 2 poupons. C'est beaucoup, là.
J'ai de la misère à m'occuper d'un enfant.
C'est beaucoup, là, d'avoir des yeux tout autour de la tête. Ah, vraiment, honnêtement, c'est un métier qui devrait être beaucoup plus mis de l'avant, mais je trouve ça toujours tragique quand on entend des histoires comme celles que Max vient de nous partager, parce que tu te dis, tabarnouche, OK. En tout cas, moi, je m'en vais là, puis je t'avoue que ça me donne des maux de ventre. On va changer de sujet dans le plus positif. Il est 14h50. Dans 10 minutes, c'est la demi-finale que posent l'Angleterre et l'Argentine. Puis je vous le disais un peu plus tôt, il y a un aspect historique et politique qui accompagne, j'ai envie de dire, ce match-là, cette histoire-là, l'Angleterre et l'Argentine. Puis Antonine, tu as fait une couple de recherches sur ce qui concerne la guerre, en fait.
Bien, en fait, moi, j'ai étudié ça. En sciences politiques, on étudiait la guerre des Malouines, la guerre des Falklands, si vous êtes de la vieille école, parce que c'était la première guerre qui opposait des pays occidentaux depuis la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'est assez anecdotique, mais l'Angleterre et l'Argentine se sont affrontées dans les années 80 pour un tout petit territoire qui était les îles Falkland, les Malouines comme telles. Donc, c'est quand même drôle de voir l'Angleterre affronter l'Argentine dans un match de foot comme ça. C'est sûr que quand on est dans une Coupe du monde, bien, on représente des pays, il y a toujours toutes sortes d'histoires, c'est toujours un peu politique. Le sport, c'est très politique, en fait. Là. Moi, qui n'est pas nécessairement la plus grande amateur de sport, je préfère l'aspect politique, communication aussi sportive, etc.
On le vit avec Donald Trump dans la dernière semaine et demie.
Qui s'est mêlé de même des décisions des arbitres. Donc, il faut dire aussi que ça attire beaucoup l'attention, cette demi-finale-là, parce que l'Argentine, c'est la championne de la dernière Coupe du monde en 2022. Lionel Messi, qui est, selon plusieurs, le meilleur joueur au monde. Ça dépend de quels critères que tu prends, mais c'est une superstar, Lionel Messi, qui joue maintenant aussi à Miami depuis plusieurs années. L'Angleterre est quatrième au classement, donc une bonne équipe également. Des gens peut-être un petit peu moins connus, là. Il y a Harry Kane, qui est leur joueur probablement le plus qu'on suit davantage. Et cette rivalité-là entre l'Angleterre et l'Argentine avait culminé juste après cette guerre des Malouines, parce qu'il y avait eu quelques années plus tard une Coupe du monde 1986 où il y avait eu un match de quart de finale dans lequel le très connu joueur argentin Diego Maradona avait fait une faute avant de marquer un but. En fait, il a marqué un but avec sa main.
Puis là, tu vois les images aujourd'hui, tu te dis, voyons donc.
C'est gros comme le bras, c'est un mauvais jeu de mots.
Je comprends que dans le temps, il pouvait pas aller aux reprises, mais comment les officiels sur le terrain ont manqué ça? C'est d'une évidence.
Tu regardes la scène, puis tous les joueurs anglais vont s'engueuler avec l'arbitre, puis ils sont comme, mais voyons donc, il a marqué avec sa main. C'est une anecdote qu'on a surnommée la main de Dieu en 1986. Et finalement, l'Argentine avait remporté cette partie-là, 2-1, et s'était rendu en finale, ce qui avait énormément frustré les Anglais. Et ça survenait 4 ans seulement après cette guerre des Malouines. Donc, la guerre des Malouines, qui avait des aspects politiques très importants. Du côté de l'Argentine, c'était une dictature à l'époque. Et au Royaume-Uni, la première ministre, c'était Margaret Thatcher, qui était dans un moment où elle était en crise politique. Et elle était moins populaire que jamais. Décide de partir en guerre contre l'Argentine puisque l'Argentine décide d'envahir des îles qui sont sous protectorat anglais, disant « c'est à nous ces îles-là ». Finalement, Margaret Thatcher décide de partir en guerre contre l'Argentine. C'était très critiqué au départ et disons qu'elle avait un peu la pression de la victoire parce que l'Argentine, c'était pas nécessairement une grande puissance que l'Angleterre était une puissance sur le déclin. Donc, tout le monde avait un peu ses intérêts là-dedans. Finalement, c'est une guerre qui a duré 2 mois à peu près. L'Angleterre a effectivement gagné, quand même eu pas mal de morts. En 2 mois, 900, un petit peu plus que 900 Argentins ont été tués. 650 militaires argentins, 258 militaires britanniques et 3 personnes locales, finalement, parce qu'il y a quelques personnes qui habitaient sur place. La première ministre Thatcher était sortie le plus populaire de cette guerre-là, puis elle avait gagné l'élection suivante. Donc là, on est en 1982, arrive la Coupe du monde en 1986, l'Argentine gagne, mais de façon absolument pas glorieuse avec cette faute-là. Donc, bref, j'ai hâte de voir l'ambiance. Ça commence dans quelques minutes. Puis
est-ce le genre d'affaires qui se traînent tant que ça avec les années? C'est toujours une question que je me pose, ça. Quand t'as un passé dans ton histoire, mais toi, mettons, là, à l'heure actuelle, t'en as-tu vraiment de quoi faire? Là?
Ben, moi, non.
Non, mais je parle comme mais, joueur, mettons.
Ben, en fait, c'est qu'il y a des rivalités comme ça qui restent très, très intenses. Je parlais avec un de mes amis hier. On se demandait pour qui, dans notre groupe d'amis, là, qui prenait pour qui dans la Coupe du monde. Puis j'ai un ami qui est chilien, puis que lui, Lionel Messi, c'est pas compliqué, il roulerait dessus avec son char.
Il l'haït.
Il l'haït. Puis il dit, c'est très fort, la rivalité. L'Argentine, c'est un pays, on dirait, qui suscite quand même un peu d'animosité chez certains autres pays. Faut dire aussi que pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme l'Italie un peu, hein. On était, l'Argentine était du mauvais côté de l'histoire. L'Argentine a aussi accueilli des ressortissants nazis après la guerre. Donc, il y a vraiment toujours des aspects comme ça qui sont politiques. Donc, j'ai hâte de voir si effectivement cette animosité-là va se ressentir sur le terrain. Mais comme tu dis, ça commence à dater là, également. Là,
ben, et donc, c'est peut-être moi. Là. Des fois, je me dis peut-être que je ne déchire pas assez ma chemise dans la vie. Là. Mais c'est le genre d'affaires que je me dis, tu sais, quand ça fait un bout, c'est derrière. Ouais. Toi, en 2026, à quel point c'est quoi?
Ben moi, la pendaison des patriotes, je l'ai encore sur le cœur.
Ben non, c'est ça.
Ben non, mais on...
Max.
Non, mais mettons qu'on essaie de faire des liens locaux.
Ouais, qu'on parle.
Quand on regarde notre histoire, ben nous autres, il y a des affaires, en tout cas, moi, qui me passent encore mal. Là,
est-ce que ça va faire en sorte que tu prends pour l'Argentine aujourd'hui?
Non.
OK, fait que tu prends pour les Anglais? Hé, là, Max.
Ben, ouais. Pense à ça.
Ouais, j'avoue.
Ça commence dans 4 minutes, donc, cette demi-finale que pose l'Angleterre et l'Argentine. C'est super intéressant, Antonine. Merci beaucoup. Dans les prochains instants, on va jaser jeux et jouets. C'est simple, on fait les tendances du moment avec Alexandre Richard de chez Club Jouet, clubjouet.com, et les essentiels pour la boîte à lunch, glacière, camping, plage, parce que vous retrouvez ça aussi chez Club Jouet. Le retour.